Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
30 hier sur un marché de Beyrouth, cet homme à la casquette porte sur lui un beeper. Ce système de radio-messagerie utilisé par le Hezbollah explose. Au même moment, dans tout le Liban, une série de détonations se fait entendre. Scène de panique, les hôpitaux sont vite débordés. L'attaque simultanée attribuée par le Hezbollah libanais à Israël a fait au moins 12 morts et un très grand nombre de blessés.
Les services des urgences ont enregistré plus de 2800 blessés, dont 200 dans un état critique. Tous blessés par l'explosion d'un beeper.
Portés à la ceinture ou sur la poitrine, ces beepers, ancêtres des téléphones portables, étaient utilisés par le Hezbollah pour échapper aux écoutes israéliennes. En février dernier, le chef du parti de Dieu, Hassan Nasrallah, avait même demandé à ses combattants de jeter leur smartphone, trop repérable par l'ennemi israélien.
L'espion, c'est le smartphone que vous avez sur vous. Il met en danger la sécurité et la vie des autres.
Ces beepers, censés être infaillibles, ont selon toute vraisemblance été piégés. Le Hezbollah accuse l'armée israélienne et ses services secrets d'être responsables de l'attaque.
Nous sommes confrontés à un événement majeur, à une agression israélienne importante et brutale. Mais nous continuerons à soutenir Gaza et nous vaincrons l'ennemi si Dieu le veut.
En Israël, silence radio, tandis que la Maison-Blanche assure ne pas être impliquée, tout en appelant l'Iran soutien du Hezbollah à la retenue.
Nous exhortons l'Iran à ne pas se servir du moindre événement pour tenter d'alimenter l'instabilité et d'aggraver encore les tensions dans la région.
Alors le risque d'une guerre totale entre Israël et le Hezbollah s'est-il accru depuis hier? Qui est derrière l'attaque au beeper? Et quel est l'objectif recherché par son commanditaire?
Nos trois invités, Guillaume Lagan, bonsoir, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de défense. Vous êtes l'auteur de « Questions internationales en fiche » pour les étudiants, ça, aux éditions Ellipse. Selon vous, en piégeant ces beepers, Israël a une nouvelle fois fait la démonstration de sa supériorité tactique et technologique. C'est un désaveu par ailleurs, selon vous, pour la direction du Hezbollah, qui avait à l'évidence une faille de sécurité. À côté de vous, Antoine Mariotti, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Journaliste à France 24, spécialiste du Moyen-Orient. Vous fûtes correspondant à Jérusalem de 2017 à 2020 et votre livre « L'agence, histoire secrète de la CIA » est paru chez Taillandier. Selon vous, le Hezbollah avait déjà promis une guerre totale en juillet quand son chef militaire a été tué et cette guerre totale n'a pas eu lieu. Pour autant, ajoutez-vous, on voit mal comment il pourrait ne pas réagir à cette attaque. Et enfin, Patricia Lémonière, bonsoir madame. Bonsoir. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre ouvrage « Au cœur du chaos » est paru chez Artaud. Selon vous, avec cette attaque, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, donc répond à une demande des Israéliens, de sa population. Il leur a promis qu'il pourrait retourner vivre dans le nord du pays. Il veut par ailleurs renforcer sa mainmise politique sur son pays. Et on démarre avec l'image du jour.
Oui, Benjamin. L'objet de l'attaque, hein, une attaque totalement inédite, hein, donc des beepers, des combattants du Hezbollah en remplacement des téléphones portables par crainte d'un piratage israélien. Le distributeur taïwanais Gold Apollo a renvoyé la balle à un sous-traitant hongrois qui a aussi décliné toute responsabilité. Une chose est certaine, au final, ces petits boîtiers se sont transformés en mini-bombes pour leurs porteurs et cela a sidéré le monde, il faut bien le dire. Et Guillaume Lagan, on se demande comment Israël a pu procéder.
Oui, alors ça, c'est une question qui va, je pense, beaucoup intéresser les services de renseignement du monde entier. C'est une performance technique. Alors, il y a en plus un événement, là, on en parlait en coulisses, qui se passe actuellement, puisqu'apparemment, il y a de nouveaux systèmes qui explosent avec
des talkie-walkie.
Donc, c'est une véritable entreprise de déstabilisation du Hezbollah. Est-ce que c'est, comme on l'a dit au départ, une cyberattaque? Est-ce que c'est au contraire plus classiquement, même si c'est extrêmement compliqué à faire, des explosifs qui auraient été dissimulés dans des matériels civils?
C'est totalement nouveau.
En tout cas, c'est pas complètement nouveau dans le sens où il y a une vingtaine d'années, les Israéliens avaient déjà éliminé par un téléphone portable un haut responsable du Hezbollah. Voilà, il y a 28 ans. Mais par l'ampleur, par la quantité de destructions, c'est tout à fait nouveau. Et c'est à la fois une prouesse technique et une prouesse en termes de guerre psychologique.
Patricia Lémonière, ça veut dire que la cargaison a peut-être été interceptée. Est-ce qu'on peut aussi imaginer des complicités en Iran ou pas?
Alors, j'irai pas jusqu'à parler dans un premier temps de l'Iran. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Mais enfin, il y en a une qui semble effectivement être la plus probable, bien qu'avec cette dernière histoire de Tokiwoki,
aujourd'hui,
ça met un peu un gros point d'interrogation sur cette thèse qui ferait qu'il y a eu effectivement intervention directe sur le matériel à la base, soit au moment de sa fabrication, plus probablement qu'au moment du transport. Bon. Mm-hmm. Alors, est-ce que l'Iran est derrière ? Écoutez, le Hezbollah est un représentant au Liban de l'Iran, mais je ne crois pas que, si c'est enfin, Israël qui est le seul pays à avoir un intérêt dans cette intervention d'un nouveau genre, hein, 2000.0 ou 3000.0, oui. On pourrait presque dire, dans cette intervention, c'est Israël qui a des intérêts. Eh bien, Israël, d'abord, son premier objectif, c'est le Hezbollah. Mmh. Le Liban, ça vient après.
L'Iran, ça vient après.
L'Iran, ça vient après. Ça vient après quand on parlera, je pense, de l'embrasement. Mmh. Et Antoine, là, oui, on parlera de l'Iran.
Antoine Mariotti, c'est vrai que l'idée aussi pour Israël, pour le Mossad, pour les services secrets, c'était de se réhabiliter et de montrer leur force de frappe. Là, ils l'ont fait.
Oui, parce qu'il y a eu un énorme plantage, pardon du mot, mais j'en vois pas d'autre, le 7 octobre dernier, avec des failles terribles dans le renseignement, pas que dans le renseignement d'ailleurs, dans l'armée, dans la gestion ensuite de la pénétration des terroristes du Hamas, du djihad islamique, c'est-à-dire un autre groupe palestinien, et de tous ceux qui ont suivi, ça a quand même duré plusieurs jours, il faut s'en rappeler, certains qui étaient en Israël et qui se cachaient, qui ont encore frappé, bref, on s'en rappelle de toute cette histoire. Donc oui, il fallait se rattraper. Ils ont toujours été très forts sur l'Iran. Il faut quand même rappeler qu'ils ont tué et retrouvé des ingénieurs scientifiques du programme nucléaire iranien, qu'ils ont, quand j'étais correspondant là-bas, retrouvé dans un hangar qui se voulait très discret, on avait l'impression qu'il y avait trois Clio ou trois papiers rangés dedans, toutes les archives du programme nucléaire iranien, ils ont réussi à les faire sortir, avec des agents du Mossad sur place, mais aussi avec des complicités iraniennes. Mmh. Après, il faut arriver à les faire sortir.
Et puis, il y a eu un assassinat au mois de juillet.
Au mois de juillet, Ismail Haniyeh, qui était le grand chef politique du Hamas, qui a été tué à Téhéran. Donc, ils ont toujours été très forts là-dessus, assez aussi sur le Hezbollah. On a presque l'impression qu'ils sont plus forts sur le Liban, le Hezbollah et sur l'Iran que sur le Hamas, alors que le Hamas est complètement cerné dans le ciel, l'air, etc., dans la bande de Gaza, parce que tout est enfermé. Moi, je connais un diplomate européen qui, une fois déjeuné, il y a quelques années déjà, avec un responsable du Hamas dans la bande de Gaza, quand il est revenu trois jours après en Israël, dans ses contacts, il avait un responsable des renseignements qui lui dit « Alors, elles étaient bonnes, les crevettes, mercredi à midi 28 ?» Tout ça, ils les connaissent, ils savent très bien. Mmh. Et là, en effet, il fallait se rattraper. Ils y arrivent. Je souscris assez à la thèse. Maintenant, il faudra voir sur les analyses techniques d'une intervention en amont, et notamment au moment de la fabrication, plutôt que d'ouvrir les cartons, même si tout est possible. Mmh. C'est ce que me disait d'ailleurs un ancien responsable technique de la DGSE, donc les services secrets français, qui travaille sur ce genre de choses, et qui, par l'explosion et par le mode opératoire, pense lui aussi, et c'est un peu l'avis quasi unanime des experts en cybersécurité.
C'est
même
vôtre,
si,
non, aussi, même Guillaume si Lagan possible.
Oui. Non, juste pour compléter, ce qui est certain, c'est que dans la direction achat du Hezbollah, il va y avoir pas mal d'interrogations, et je pense même que certains des responsables ont peut-être déjà fui. Enfin, moi, à mon avis, il y a eu quand même des infiltrations humaines, on le sait, des services israéliens dans la structure même du Hezbollah.
Dans la structure même du Hezbollah.
Je vois difficilement comment on peut imaginer, enfin, on peut imaginer des espionnages techniques, électroniques, mais quand même, on le sait, vous parliez tout à l'heure du Hamas, un des grands problèmes de ces mouvements palestiniens ou d'opposition à Israël, ce sont les infiltrations, les infiltrés d'ailleurs. C'est aussi une technique, vous savez, qu'on a, nous, utilisée pendant la guerre d'Algérie, qui s'appelle la bleuite, qui consiste à insuffler chez l'adversaire l'idée que certains de ses camarades sont des traîtres et de provoquer des purges internes qui affaiblissent le mouvement. Bon, là, c'est vraiment, à mon avis, ce qui va probablement se passer. Certaines têtes vont tomber au sens... dans cette région, c'est plutôt au sens propre qu'au sens figuré, comprendre ce qui s'est passé.
Patricia Limonière, c'est une déstabilisation psychologique, c'est aussi ça.
Il y a plusieurs choses. C'est une déstabilisation effectivement psychologique parce qu'effectivement tout le monde se méfie de tout le monde. Mm-hmm. Et je reviens sur cette idée-là. Effectivement, le Hezbollah, après 2006, a pris une ampleur au sud Liban et dans tout le Liban, est devenu, par le nombre de ses militants, beaucoup plus infiltrable, beaucoup plus perméable à l'infiltration. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir des espions ou des gens qui sont pris en main par Israël. Mais il faut voir maintenant comment le Hezbollah va régler cette question. Alors, effectivement, il va le régler par des purges internes, mais je crois qu'aussi... il y a une déstabilisation profonde, c'est d'abord une humiliation, et aussi une déstabilisation profonde de sa structure. Imaginez-vous aujourd'hui les combattants mais ne peuvent plus communiquer. Voilà. Enfin, moi, je leur conseille de revenir à l'âne de Ben Laden, finalement.
À parce quoi
à l'âne. Vous savez qu'il faisait toutes ses communications.
Non,
à Dodane. Ah oui. Tous les envoyés, les émissaires à Ben Laden arrivaient à Dodane ou à cheval ou à pied. Enfin, ils n'arrivaient
pour ne pas être tracés, donc.
Pour ne pas être tracés. Donc là, avec les talkie-walkie, moi, je pense qu'on est dans une dimension bien supérieure, parce que là, ça fragilise complètement l'opérationnel. S'il y a une... On va revenir à une offensive ou pas israélienne. De toute façon, le Hezbollah, il a perdu tous ses moyens de contrôler et de diriger ses combattants sur le terrain.
On peut revenir, Antoine Mariotti, en un mot, enfin quelques mots. Le Hezbollah, la nature particulière, c'est à la fois une milice et un parti politique qui s'est créé il y a une quarantaine d'années.
Une milice extrêmement forte, qui est plus forte que l'armée régulière libanaise. C'est un parti politique qui est plus que central sur la scène politique libanaise, qui est même incontournable. On ne peut pas avoir aujourd'hui un gouvernement sans un feu vert du Hezbollah.
Et le parti de Dieu, c'est un parti religieux.
Hezbollah veut dire parti de Dieu. Oui. Et on parlait de 2006, c'est donc la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël. Israël n'a certes pas perdu la guerre, mais elle ne l'a pas gagnée. Et elle a été sacrément chahutée par le Hezbollah, qui a eu une aura incroyable depuis. Patricia disait très justement qu'ils se sont beaucoup renforcés depuis. On dit qu'ils ont multiplié leur nombre de roquettes par 10. Ils en avaient à peu près 15 000, selon les estimations. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit foncièrement fiable. On parle d'aujourd'hui entre 100 et 200 000. Mais surtout, ils ont gagné une aura dans tout le Liban, mais dans tout le monde arabe, comme étant la seule force capable de réellement tenir tête à Israël. Et aujourd'hui, on la voit être quand même un petit peu chamboulée, parce qu'ils ont beaucoup de chefs qui ont été tués ces derniers mois. Ils ont surtout le chef militaire. Et puis là, on voit qu'ils sont complètement pénétrés, et je vous rejoins complètement, sur l'infiltration des services secrets israéliens dans le Hezbollah. Ils ont toujours été très bons là-dessus, au même titre qu'ils sont en Iran aussi.
Guillaume Lagasse, sur cette suprématie de Hezbollah, ils sont beaucoup plus nombreux, les combattants du Hezbollah, que le Hamas, hein, il faut le rappeler, c'est quand même très important.
Oui, alors après, ce sont deux mouvements très différents. Juste pour compléter sur ce qui vient de dire, on ne peut pas tout dire, mais rappelez quand même que le Hezbollah, c'est avant tout l'expression de la communauté chiite au Liban. L'expression forcée, puisqu'en fait, on n'a pas tellement le choix quand on est chiite, soit on est Hamas, soit on est au Hezbollah.
Et qui a pour objectif la destruction d'Israël, c'est
toujours dans leur charte. En fait, il y avait pour objectif, au début de son existence, dans les années 80, c'était on était en guerre civile au Liban, rappelez-vous, d'affirmer les intérêts de la communauté chiite dans la mosaïque libanaise, où vous avez des sunnites, où vous avez des chrétiens. Il s'agissait de favoriser les chiites, qui sont une population historiquement un peu défavorisée. Mais effectivement, depuis 20 ans, depuis qu'Israël a évacué le sud Liban, l'ADN du Hezbollah, c'est devenu la lutte contre Israël et la récupération de ce qu'ils prétendent être un territoire libanais. Bon là, pour entrer dans le détail, ce sont les fermes de Sheba, qui justifient pour eux la lutte contre Israël et plus largement le problème palestinien. Ce n'est pas du tout l'idée de la communauté internationale qui considère que ce territoire n'est pas spécialement libanais. Mais voilà, pour dire qu'il y a à la fois un aspect international, vous l'avez dit, mais il y a aussi un aspect très interne au Liban, au moment où justement le Hezbollah est très critiqué au Liban, parce qu'un certain nombre de Libanais disent « vous attirez chez nous la guerre, vous attirez chez nous les forces israéliennes
». Oui. Patricia Lemonnier, il n'y a pas eu de revendication d'Israël. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, il pourrait se targuer d'avoir visé près de 3000 combattants du Hezbollah.
Non, Israël ne revendique jamais les opérations à l'extérieur, ou que peut-être une seule fois ça a été fait. Ce n'est pas du tout... Il y a des petites fuites, il y a quelqu'un qui déclare quelque chose à un journaliste, puis après, non, finalement, il y a des négations. Donc ce n'est pas du tout dans la tradition israélienne de revendiquer ces actions, et elle ne le revendiquera pas probablement une fois de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette opération, Israël lave complètement l'affront, effectivement, comme on l'a dit, du 7 octobre, assure sa supériorité technologique et technique sur toute la région. Et donc.
Et ne prévient pas Washington ? Ça aussi, ça peut surprendre.
Washington. Si vous voulez, je crois que pour, par exemple, quand Ismaël Haniyeh a été ciblé à Téhéran, je pense que sur une cible aussi forte, effectivement, là, Washington était mise au courant. Là, pour cette opération qui cible, en fait, pas des personnages importants, c'est des cadres. C'est très important pour la structure, mais ce n'est pas des têtes d'affiche, en quelque sorte. Pas besoin d'avoir l'aval de Washington.
Et quelques heures avant, très rapidement, pardon, les Américains appelaient et le Hezbollah et les Israéliens à la retenue à cette frontière-là. D'accord.
Comme par prémonition.
Je ne suis pas très surpris qu'il ne soit pas forcément tenu au courant, parce qu'il y a aussi un jeu diplomatique de force avec le gouvernement israélien qui essaie de résister aux pressions américaines par rapport à un cessez-le-feu, donc ça ne me surprend pas énormément.
Alors, comme vous le rappeliez, Israël, État hébreu, ne revendique jamais ce genre d'opération. Néanmoins, ça s'inscrit peut-être, on va parler avec vous, Anna, dans l'idée d'aller un petit peu plus fort dans une confrontation avec le Hezbollah.
Oui, exactement. Israël et le Hezbollah s'affrontent déjà depuis plusieurs mois à la frontière nord d'Israël. Depuis le 8 octobre, les tirs sont son quotidien de part et d'autre de la frontière. L'État hébreu multiplie les raids aériens sur le sol libanais. Le Hezbollah lui répond à coups de roquettes et de drones armés, ce qui a poussé des dizaines de milliers d'Israéliens à être déplacés. Et ces dernières semaines, la pression semble être encore montée d'un cran sur la ligne de front. Et donc, Benjamin Netanyahou a révisé, c'était hier, ses objectifs de guerre. En plus de la libération des otages et de la destruction du Hamas, il en a donc rajouté un troisième, à savoir permettre aux habitants du nord du pays de rentrer chez eux sans craindre les bombardements du Hezbollah libanais. Ce qui veut dire, en sous-texte, lancer une attaque armée en règle contre le Liban pour mettre fin à cette menace. Et là où ça pose problème, c'est que le ministre de la Défense actuel, Yoav Gallant, lui, n'est pas du tout d'accord avec ce plan. Il pourrait donc être limogé très rapidement, c'est ce que dit la rumeur, et remplacé par Gideon Saar, un député de droite, très à droite, qui estime que jusqu'à présent, la réponse d'Israël envers ses ennemis, que ce soit le Liban ou l'Iran, n'est pas assez dur. Antoine Mariotti, est-ce qu'un ministre de la Défense plus dur, ça veut dire qu'il va falloir s'attendre, quoi qu'il en coûte, à des attaques comme celle-ci et plus régulières ?
Il sera peut-être plus dur, mais ce n'est pas non plus certain à 100%. Je pense qu'il n'a pas non plus complètement la main, et on voit bien que Gallant n'a pas à 100% la main non plus. C'est Netanyahou qui l'a et qui est sur une coalition. Il faut quand même se rappeler qu'on est sur un système proportionnel, je vous la fais très courte, mais ça veut dire que le moindre petit parti qui a 4 sièges peut vous permettre d'avoir une majorité. C'est comme si en France, la coalition tenait avec Philippe Poutou, par exemple. Vous voyez, c'est un peu dans l'idée. Sauf que là, l'équivalence, avec seulement 6 sièges, ce sont les plus extrémistes. Et quand on parle d'extrême droite, c'est l'extrême extrême droite. Ce sont des suprémacistes, clairement anti-arabes, etc. Et qui vous le disent ouvertement. Je les ai interviewés, c'est les yeux dans les yeux, ils vous le disent. Et donc, eux, ils sont pour une politique très forte et une opération militaire très forte avec le Liban. Mais il faut quand même se rappeler que le Hezbollah dit depuis le début, le jour où vous arrêtez de frapper dans la bande de Gaza, nous on arrête immédiatement. Et donc il y a deux solutions. En effet, soit il y a une opération militaire forte au Hezbollah, contre le Hezbollah pour pouvoir dire que vous allez pouvoir rentrer dans vos foyers aux habitants du nord d'Israël, mais ça va quand même prendre quelques temps parce que le Hezbollah a une force de frappe très importante. Soit vous avez un accord avec la bande de Gaza et avec le Hamas. Et ça, pour l'instant, le gouvernement Netanyahou s'y refuse, malgré la pression publique. On parlait récemment de 700 000 manifestants qui poussaient pour un accord dans un pays qui fait 9 millions d'habitants. Oui, c'est gigantesque.
C'est énorme. Guillaume Lagan, on y revient à l'Iran. On dit que c'est eux qui tirent les ficelles. Si embrasement est régional, ça voudrait dire que ça viendra de Téhéran, que c'est Téhéran qui le souhaitera. Pour l'instant, Téhéran n'a pas répliqué, finalement, à l'assassinat d'Aniyeh par les Israéliens. Quand ils avaient alors qu'il s'était engagé à une réplique. Oui. Donc on a l'impression que tout tient à cela et qu'il y a une forme de tension, mais sans explosion.
Bah, disons que dans la géopolitique régionale, effectivement, derrière beaucoup des problèmes que le Moyen-Orient a, il y a l'Iran, ça c'est clair. Au Liban, le Hezbollah, on l'a dit, est téléguidé par l'Iran. Il a une certaine autonomie sur laquelle les experts discutent, mais en gros, il est quand même téléguidé par l'Iran. Et l'attaque qui vient d'être aujourd'hui faite contre le Hezbollah, enfin hier maintenant, il y a quelques heures, c'est la dernière en date. Vous avez parlé d'Aniyeh, mais il faut rappeler qu'il y a quelques jours, il y a eu aussi une intervention au sol en Syrie, qui était exceptionnelle, parce que d'habitude, les Israéliens frappent la Syrie depuis 2011 des centaines de fois, mais toujours de l'air, tandis que là, ils ont débarqué des commandos pour détruire une usine qui justement produisait des armes pour le Hezbollah. Donc ils ont fait une démonstration très impressionnante. Et puis là, il y a cette attaque avec les Piper. Alors tout ça, effectivement, ce sont, comme on dit, des messages envoyés à l'Iran pour l'obliger à reculer. Et on parlait tout à l'heure de l'intervention possible de Tsahal au Liban. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ce qui est possible aussi, c'est qu'il y ait un bras de fer diplomatique et qu'on obtienne du Hezbollah ce qui est normalement demandé par la communauté internationale depuis 2006, depuis la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Normalement, le Hezbollah ne devrait pas être dans le sud du Liban, il devrait être déployé au nord d'un fleuve qui s'appelle le fleuve Litani. Ça éloignerait, si vous voulez, le Hezbollah de quelques dizaines de kilomètres d'Israël, et ça répondrait un peu aux préoccupations de sécurité d'Israël. Donc c'est peut-être ça la sortie de crise au Liban.
C'est plausible que le Hezbollah accède à cette demande implicite, et là très explicite à travers ses attaques, et remonte de quelques kilomètres, et que ça évite un embrasement régional ?
Alors, il y a une chose qui est en train de se passer sur un plan purement diplomatique, c'est que l'envoyé spécial de la Maison-Blanche essayait de négocier avec le Hezbollah, celui qui est chargé de la question libanaise, essayait de négocier avec le Hezbollah qu'il se décroche de la question de Gaza. Parce qu'effectivement, le Hezbollah a dit « Moi, je frappe, en soutien effectivement au Hamas et à Gaza. Donc les Américains essayent
de décorréler
les deux. Là, avec ce qui vient de se passer, on a vu déjà aujourd'hui, il y a eu des ripostes par des tirs de roquettes sur le nord d'Israël. La politique que veut mener le Premier ministre au Liban est assez complexe, parce qu'il y a un fort mouvement de la population. Le Premier ministre israélien, il y a un fort mouvement de la population qui soutient et qui veut que les, comme vous le disiez très justement, qui veut que les habitants, les 100 000 habitants déplacés, les 80 000 plutôt, reviennent vivre dans la partie nord du Liban. Justement. Mais je mets une objection là-dessus. Est-ce que c'est un artifice? Parce que ça, depuis longtemps, même Galante est un des premiers qui l'avait réclamé, d'ailleurs, avant de changer un peu d'avis. Est-ce que c'est un pur artifice? Ou est-ce que c'est une volonté de lancer une vraie opération au sud-Liban, et dans ce cas-là, les doubles attaques auxquelles on assiste depuis hier ne seraient qu'un prélude à une opération terrestre. Mais je ne crois pas à une opération terrestre.
Et vous insistez sur les opinions publiques, bien évidemment, c'est crucial. On va entendre les réactions qui n'ont bien sûr rien à voir des deux côtés de la frontière libanaise. On écoute.
I thank God that it happened. It's the time to punish the wrong people, the bad people.
Israel proved again that our imagination is endless. We can hit and get our enemies anytime.
عم تتفجر قدام منك. الحمد لله كتر خير الله. ما فينا نقول إلا أكثر من هيك. حسبنا الله ونعم الوكيل.
هيدا لازم يكون في رد عليه من المقاومة، رد حاسم، رد مدمر، مزلزل لو بده يودي لحرب.
Antoine Mariotti, chaque radicalité est confortée, j'allais dire. C'est Benjamin Netanyahu en Israël, le Hezbollah au Liban.
Moi, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, les plus radicaux gagnent du terrain. On le voit d'ailleurs sur la scène politique israélienne. Chacun est dans son camp, chacun voit l'autre en ennemi. Donc oui, clairement, on est dans une radicalité qui se poursuit. Et en même temps, on est aussi à mieux connaître les capacités de l'autre et à être prudent. On voit quand même depuis le début, depuis un an, qu'il y a presque un an dans quelques jours, une guerre larvée et que personne n'est allé vraiment
alors justement,
au-delà. La grosse guerre de 2006, pour rappel, c'était 33 jours. Là, on est quand même à 11 mois.
Mais l'Iran ne veut pas dire.
Mais Gamelin, est-ce que ça ne peut pas contraindre finalement guerre, est-ce que ça ne peut pas mener à un moment donné une négociation? C'est-à-dire la tension est tellement forte que chacune des parties se dit bon, il va falloir discuter. Ou ça, c'est une illusion de journaliste.
Bon, comme on dit, l'Orient compliqué, donc on ne sait pas très bien ce qui peut sortir de cette crise. Des crises, il y en a eu beaucoup, beaucoup jusque-là. Il y a eu quand même quelques éléments positifs. Par exemple, il y a quelques années, on avait réussi à conclure ce fameux accord de Vienne avec l'Iran pour qu'il n'obtienne pas la bombe nucléaire. Cet accord est enterré. Ça fait partie d'ailleurs de tout ce qu'on ne dit pas, mais de la grande négociation entre Américains et l'Iran.
Voilà.
Maintenant, je voulais rebondir sur la radicalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire non plus de parallélisme excessif. Oui. Vous avez d'un côté une population israélienne qui, très légitimement, il y a quand même 100 000 personnes qui ont perdu leur foyer, veut revenir et donc s'inquiète de l'existence d'un mouvement comme le Hezbollah. Puis du côté du Liban, moi je pense que, encore une fois, beaucoup dépend des communautés auxquelles vous vous adressez, et c'est un pays dans lequel prendre position publiquement contre le Hezbollah, on ne peut pas faire comme en Israël, on ne peut pas insulter le Premier ministre.
Mais on les entend moins.
Voilà, il faut faire attention avec ce type de parallèle.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.